Nous nous rendons maintenant à L'Œil Écoute, une autre galerie du Vieux Lyon, où nous rencontrons dans un premier temps Martine Birobins, artiste québécoise.
Je suis une femme, une vraie, puis mon travail, c'est un travail de femme. Il y a du ventre, de la tripe, de l'utérus, de l'émotion. Au fil des années, j'ai essayé de chercher un aspect plus universel de la femme, c'est-à-dire pas juste mon histoire personnelle, mais d'être un petit peu plus universelle. J'ai eu plein d'histoires, plein d'étapes dans mon travail, évidemment, parce que j'ai quand même un petit bout de chemin de quelques années. Et au niveau des matériaux que j'utilise, je suis assez instable parce que je m'ennuie très rapidement et je suis très curieuse. Et le mouvement, même dans ma création, puis dans mon esprit, est extrêmement important. Donc je vais travailler autant le ciment que la fibre de verre, que le textile. Et là, c'est le bois qui est rentré dans ma vie, que je sculpte. J'en suis arrivée à l'art je suis passée par l'art très jeune pour une survie parce que j'avais besoin de faire quelque chose pour pas vivre ma réalité. Et donc c'est l'heure de sortir vos mouchoirs parce que c'est vraiment triste. Non. Donc j'ai toujours agi sur mon univers à travers l'art. L'art, c'est agir sur son univers, c'est le transformer, c'est l'inventer, c'est le rendre beau parfois parce que c'est tellement beau ce qu'on peut faire avec nos mains, c'est surprenant. Moi, mes sculptures, je les aime, même quand elles sont ratées, je ne m'en aperçois pas au début qu'elles sont ratées, je les trouve magnifiques. Et comme beaucoup d'artistes, l'art, c'est un exutoire. Là, tous les artistes vont le dire. Là, l'art, c'est une source de vie.
Pour vous, c'est une manière de s'extérioriser,
Oui, bien sûr, d'exister.
Et puis de s'exorciser aussi.
Oui, de s'exorciser, d'exister, de communiquer aussi, parce que c'est une forme de communication at large. Alors, pourquoi je parle avec des expressions anglaises, là.
Mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est une œuvre parmi celles que vous exposez ce soir qui vous. Que vous aimez particulièrement,
oui,
donc
j'ai,
particulièrement
oui,
fière.
Oui. Alors, ce soir, j'ai une œuvre que j'aime beaucoup et à laquelle je tiens et qui est très invendable et difficile à diffuser, qui s'appelle Souvenir de toi. Et je tiens cette œuvre parce que souvent les gens reculent devant cette œuvre parce que c'est une poupée cassée, c'est une brisure, c'est la vieillesse et c'est la mort. Les gens reculent un peu souvent, ils me disent non, c'est trop gore. Et c'est quelque chose qui m'obsède parce que je trouve qu'on a tellement peur de la laideur, de la maladie, de la vieillesse. La vieillesse fait peur. La maladie fait peur. Surtout en Amérique du Nord, je dois dire, on ne voit pas de vieux, très peu, ils sont enfermés. Je ne sais pas si en France c'est comme ça. Et les gens ont peur parce que les vieux, ce n'est pas terrible. Hein. C'est, bon, on a beau dire, t'es une belle vieille, machin, regarde mon cube, il n'y a personne qui veut avoir un look de 60 ans, de 70 et de 80. Hein. Et ça m'obsède parce que c'est
quelque chose qui vous angoisse.
Oui, ça m'angoisse. Oui, la mort ne m'angoisse pas. Même ça va être bon débarras, pas parce que je suis malheureuse, hein, parce que je suis heureuse. J'ai fait ce que je voulais, tout ça. Donc voilà. Mais alors oui, la marchette et puis la sénilité, la marchette, l'arthrite dans les mains, putain non, ça j'en veux pas là, j'en veux pas, zéro, là je préfère crever. Alors oui, ça m'angoisse parce que je sens que c'est pas loin de moi, ça se rapproche de moi. Et donc ça, ce sont des choses qui m'angoissent. L'étape avant la mort, la petite mort du quotidien, c'est... Voilà.
Et donc, au contraire, lorsque vous réalisez des œuvres comme ça, ça ne vous fait pas y penser encore plus? Est-ce que ça n'accentue
non,
pas
ça, ça m'en fait rire, ça m'en fait l'aimer, ça me
c'est
fait l'aimer.
Dédramatiser.
Pardon. Oui, ça dédramatise, ça me fait le toucher, l'apprivoiser, l'aimer. Parce que, exemple, cette œuvre dont je parlais, je l'aime. Et j'en ai fait d'autres comme ça à la maison. Je les aime, je les trouve super belles. Et puis même si ça ne plaît pas aux gens, je les emmerde. Et voilà, alors je trouve que c'est important.
Très bien. Et justement, quand vous faites une œuvre, est-ce que vous pensez à sa réception, à l'éventuel public qu'elle pourrait avoir?
Oui, je travaille toujours avec plein d'inconnus autour de moi. C'est incroyable. Je travaille avec des gens. Je pense à eux. Et parfois, quand je travaille beaucoup sur une œuvre, parce que je peux être compulsive et travailler des jours et des mois sur une œuvre, et je me dis, qui l'aura? Qui va partir avec? Je travaille avec cet inconnu et cette personne. Et parfois je fais comme bon souvenir de toi, je me dis bon ben là Martine putain, elle va rester avec toi cette œuvre, ou ça va prendre 10 ans pour trouver la personne qui va l'accepter, et je trouve ça formidable.
Et alors, donc quand vous faites une œuvre, vous n'avez pas forcément cette envie de la garder avec vous parce que c'est votre production.
Tu rigoles, ça fait 25 ans, j'en ai partout dans la cave et tout. J'ai certainement pas. Toi, tu veux les garder quand tu as 25 ans, puis tu en as 10 belles toiles. Mais quand tu as 60 ans, puis tu en as 300. Puis,
et ça s'accumule.
Non, tu veux les. Tu veux. D'abord, tu veux qu'on t'aime. Tu veux qu'on te veuille. Et tu veux qu'elle s'en aille, s'il vous plaît, pour faire de la place pour les autres. Parce que quand t'es artiste, souvent, enfin moi c'est comme ça, j'ai un cerveau, c'est une machine. Je crée une œuvre qui est le brouillon de la suivante. Et parce que pendant que je crée l'œuvre, il y a la suivante qui se crée dans mon cerveau, qui va être beaucoup mieux. Parce qu'en faisant l'œuvre, je me dis, j'aurais dû faire comme ceci, comme cela. Et il y en a une autre qui naît. Alors, next. Il faut qu'elle s'en aille.
Pour terminer, est-ce que vous pourriez décrire une de vos œuvres, vu qu'on est à la radio?
Je vais parler de Souvenir de toi. C'est une poupée creepy, une vieille poupée un peu sale, cassée, fêlée. Je pense qu'elle a le cerveau fêlé. Et j'ai marqué Souvenir de toi parce que quand je l'ai acheté, j'ai dit, il y a quelqu'un qui l'a aimé, cette poupée, puis qui s'en est débarrassé, ou je ne sais pas ce qui est arrivé, parce que j'ai acheté chez un antiquaire. Et donc, elle avait toute cette histoire. Elle n'est vraiment pas belle. Elle a une sale gueule. Et je l'ai mise dans un sarcophage parce qu'il y a une idée de mort. Là. Peut-être que sa propriétaire est morte, l'enfant qui a aimé cette poupée. Est morte, alors j'ai mis dans un beau sarcophage que j'ai sculpté avec des petits personnages, quelque chose de gay, de c'est pas triste là, je suis pas dramatique, gore, j'aime beaucoup rire, manger, boire et tout. Donc j'ai mis dans un joli sarcophage avec des perles et tout, coquette, mignon. C'est comme une jolie petite mort, et puis le sarcophage n'est pas fermé. Ça veut dire que la mort, eh ben, elle n'est pas définitive. Tous mes sarcophages sont portes ouvertes. Voilà.
Moi, je suis Samy Fouché. Je suis dans l'organisation de la Biennale dans les normes depuis la deuxième édition. Parce que j'avais refusé d'entrer dans l'organisation de la première parce que j'étais encore au travail. Depuis que je suis retraité, donc j'ai intégré ce qu'on appelle le groupe moteur. Et ils m'ont invité pour surtout proposer une programmation de spectacles vivants en rapport avec cette nébuleuse artistique qu'on appelle le hors norme. Le problème qu'on peut tout de suite apercevoir, c'est que autant dans le milieu de l'art, hors norme correspond à quelque chose qui n'est déjà pas très précis, c'est en train d'évoluer, dans le milieu du spectacle vivant, ça n'existe pas. Il n'y a pas de choses classées hors norme, et donc pour voir repérer des spectacles théâtraux, musicaux, marionnettes, etc., cirque, clown, qui sont hors normes, ça veut dire qu'il faut quand même bouger pas mal, repérer, etc. Alors, il n'y a pas beaucoup de moyens, parce que moi je me déplace un petit peu dans Rhône-Alpes, enfin, principalement dans le département de l'Isère où j'habite, et un petit peu sur Lyon, Valence, voilà, pour repérer ce que font certains artistes et qui pourraient être programmé dans le cadre de cette biennale.
Et donc, comment vous choisissez les artistes que vous décidez de proposer pour la BHN ?
Alors,
vos critères de choix pour rester un peu dans ce cadre du, enfin, ce cadre entre guillemets du hors norme.
Ouais. Alors, ce que j'essaye de repérer, en fait, c'est forcément, c'est dans certaines disciplines, puisque le spectacle vivant est assez catégorisé. C'est-à-dire, il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a de la marionnette, il y a du cirque, etc. Mais après, on se rend compte qu'à l'intérieur de ces catégories, il y a des sous-catégories. Dans le milieu de la musique, par exemple, c'est très clair, quoi. Il y a énormément de classifications musicales. Hein. Bon, si on veut faire du hard rock, garage, du Sénégal, bon, ça peut se faire, hein, mais bon, c'est une catégorie. Voilà. Alors, moi, j'essaye de repérer dans ces disciplines des artistes, en fait. Donc, c'est pas de repérer des disciplines, mais plutôt des artistes qui ont une accointance avec, qui pourrait être repérée comme étant identique avec celle des artistes plasticiens qu'on peut classer dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'en général, bon, ils ont un grain, ils ont un imaginaire, ils ont une urgence à dire les choses, et les choses qu'ils disent sont immédiatement lisibles, compréhensibles. Il n'y a pas trop d'intellectualisme, quoi. Même si après, ou pendant, ou avant, on peut aussi réfléchir. Évidemment, il y a de la pensée, quoi. Alors, du coup, je vais principalement quand même dans les lieux où il y a déjà un aspect plastique très fort. Par exemple, mais du coup, ça n'aboutit pas toujours, hein. Cette année, il n'y en a pas. Par exemple, la marionnette est un domaine dans lequel il y a beaucoup de plasticiens qui interviennent. Parce qu'en fait, une marionnette, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une poupée. Hein, c'est un objet qui est construit pour être animé. Et c'est de l'art plastique, en fait, de la sculpture. Hein, c'est, voilà. Le décor de théâtre, c'est du dessin, c'est de la peinture, c'est des toiles. C'est, voilà. La scénographie aussi, avec maintenant l'assistance numérique, avec les éclairages, les couleurs, c'est aussi d'art plastique, en fait. Hein, voilà. Donc, comment on peut repérer dans tous ces domaines-là des gens qui font des choses qui peuvent rentrer là? Après, il y a forcément des éléments subjectifs. Enfin, c'est moi qui choisis. Donc, ce que j'ai choisi pour cette édition, en fait, il y a du théâtre, avec quand même des visites guidées qui sont complètement décalées, donc qui sont hors normes. C'est pas des visites qu'on trouve à la Biennale d'art contemporain. La Biennale d'art contemporain, comme dans n'importe quel musée, il y a des vraies visites avec des gens qui ont été formés, souvent c'est des étudiants des beaux-arts. Ils vont donner une explication pédagogique, des fois sociologique, psychologique, historique, etc., sur l'œuvre dont ils parlent. Alors que les visites guidées qui sont organisées par la BHN, peut-être que personnellement je les ai programmées, c'est rien à voir. La première visite guidée, en fait, c'est un artiste, un théâtreux, un comédien de Grenoble, qui, en fait, plutôt que de faire visiter les expos, il a inventé un artiste imaginaire. Et il a fait là-dessus tout un projet, toute une déambulation qui commençait dans l'amphithéâtre et qui allait dans les espaces d'expo. Mais il ne s'intéressait pas du tout aux œuvres présentées. Donc c'était en même temps une œuvre théâtrale qui pose un certain type de critique sur ce qu'on peut considérer comme étant l'art contemporain. Bien que cette notion d'art contemporain est aussi sujet actuellement à beaucoup d'évolutions. Donc ces visites sont de l'imprévu, et sont de l'ordre de la construction de l'imaginaire des artistes qui sont proposés. Et à chaque fois, ce sont des propositions qui sont faites à des artistes qui sont plutôt un peu à la marge du théâtre, qui sont dans le théâtre de rue, dans des genres théâtraux pas tellement académiques, je dirais, quoi. La conférence spontanée, par exemple, la déambulation, voilà. Après, comme autre spectacle, il y a eu alors, un spectacle qui est presque à caractère de théâtre documentaire, mais c'était une lecture d'un artiste plasticien qui s'appelle Garousse, qui est assez connu et qui a écrit un texte qui s'appelle L'Intrancule sur sa vie. C'est une biographie, en fait. Hein, voilà. Et c'est une vie extraordinaire. Il raconte tout ce qu'il a vécu depuis sa naissance et comment il a pu réussir à faire une œuvre. Quoi. Et on rentre dans un milieu où il y a la guerre, la présence de la guerre de 39-45. Son père était collabo, antisémite. Et il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se construire en tant que plasticien contre l'éducation qu'il a reçue. Quoi. Donc c'est une lecture de texte qu'on a placée dans la Biennale hors norme, mais en fait, elle pourrait être aussi placée dans la Biennale d'art contemporain, mais elle n'y a pas été. Bon, bah, voilà. Et puis le week-end qui arrive, là, on aura alors une conférence un peu bidon, loufoque, mais en relation très étroite avec le thème de la Biennale qui est l'intime, l'extime. Et c'est une conférence qui s'appelle « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ?» C'est un comédien des Deux-Sèvres, il vient de Parthenay, Jérôme Rouget, il appartient à une compagnie qui s'appelle la Martingale. Et il aime bien faire ce qu'on appelle du théâtre du vrai-faux. Voilà. Et moi, j'adore ça. Et en fait, les singuliers, les hors-normes, qu'est-ce qu'ils font d'autre que du vrai-faux? En fait, ils construisent un monde dans lequel ils peuvent vivre. Parce que le monde qu'on leur propose, ils n'arrivent pas à vivre dedans. Donc, ils construisent un monde à part. Voilà. Et souvent, l'art sert à ça. Voilà ce qu'on peut dire sur ces spectacles.
Oui, vous avez quand même essayé de jouer le jeu du thème imposé cette année par la BHN.
Oui, j'ai compris que le thème intime-extime était un thème finalement assez passe-partout quand même.
C'est vrai.
Parce que n'importe quel artiste, à partir du moment où il monte son œuvre, qui est passé d'un espace d'intimité à une présentation extérieure, hein, voilà. Et forcément, quand on est dans le monde du spectacle vivant, c'est encore plus prégnant puisque le comédien ou les comédiens, le metteur en scène, la compagnie artistique, ils montent sur scène et ils sont en représentation exactement comme un plasticien va être en représentation le jour où il présente ses œuvres. Il y a une espèce de mise à nu qui est, je pense, un passage compliqué pour les artistes. Hein. Et si ce passage-là n'est pas compliqué, on reste dans la rigolade, on reste dans un monde où il n'y a pas d'engagement humain. Quoi. Et moi, j'aime bien ça. Et chez les artistes qui rentrent dans le cadre de cette biennale hors norme, c'est très important d'avoir une humanité très forte, de la convivialité, évidemment. Mais d'être dans une sorte de vérité, même si on utilise le vrai-faux. Parce que souvent, l'humour permet de dire des choses que directement, on ne peut pas vraiment raconter.
À l'œil écoute, Lorraine, qui est l'un des organisateurs de la BHN, prend le temps de parler de l'organisation de cet événement, de sa création et de ses perspectives possibles.
Lorraine.
Alors, qu'est-ce que vous faites ici à la BHN?
Oh là 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 là! Je dis, bah oui, on devrait faire un truc comme ça. Et voilà. Et puis, on s'est retrouvés à trois, voilà, à monter l'histoire. Mais j'ai eu le malheur de dire au départ, bah, on va y réfléchir.
Et alors, l'histoire, elle en est où?
Alors, l'histoire. L'histoire, elle grandit, elle grandit. Je pense que là, elle peut pas vraiment aller plus loin, il va falloir qu'elle évolue. On va vraiment avoir besoin de changer de. Enfin, ça fait déjà 2 ans qu'on le dit, de changer de formule, de changer de système. Mais moi, elle me plaît bien. Elle me plaît bien parce que, comme on tourne là, c'est vraiment du rapport humain, c'est vraiment de la mise en commun de plein de choses. On a énormément d'acteurs, on a énormément de lieux, chacun y croit et tout. C'est bien, mais c'est trop lourd pour les organisateurs. Donc, et puis, le jour où nous, on va se fatiguer, eh ben, elle va disparaître, cette histoire. Donc maintenant, l'idée, c'est de vraiment de créer quelque chose qui pérennise cette histoire.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme idée de poursuite ?
Alors, l'avantage...
C'est encore à l'étude.
Mais l'avantage de la BHN, c'est qu'on est toujours à toutes les idées, on est toujours prêt à tout, on réfléchit, on est ouvert à toutes les idées. Donc, ce qui nous serait vraiment intéressant, et c'est quelque chose suite à une grande, à beaucoup de douleurs, on a vu partir sur ces 10 ans pas mal d'artistes et certains, tous leurs travaux disparaissent avec eux. Parce que voilà, on en a un là qui a toute sa famille, Jean-Yves Lefebvre, toute sa famille était derrière et a tout enregistré ce qu'il avait fait. Ils ont retrouvé 1000 œuvres. 1000 œuvres. Et si la famille n'avait pas été derrière, ces 1000 œuvres-là partaient directement à la déchetterie, on n'en parlait plus. Donc notre grande envie sur la BHN, c'est ça, c'est d'avoir un lieu pérenne où on peut archiver, avoir une base pour cette énergie, un lieu de ressources, un lieu où chacun vient. Voilà. Donc, pour que tous les gens qui bossent avec nous, ces 37 lieux, c'est 80 énergies. Chaque lieu a une énergie pour faire le truc et dans chaque lieu, il y a un acteur. Donc, c'est énormément d'énergie. Cette énergie-là, on la maintient nous parce qu'on a le feu sacré, mais on va crever un jour. Hein.
Et donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette biennale hors norme perce un peu plus et attire peut-être un public un peu plus large ?
Alors est-ce que c'est intéressant que la BHN attire un public plus large ?
Parce que c'est vrai que ça reste hors norme, mais ça a ce caractère un peu particulier.
Alors, on fait tout pour attirer un public plus large. Hein. Tous les matins, on a des écoles qui viennent. On a énormément de visites scolaires ou de centres qui viennent. On a beaucoup de visites. Mais on s'est installé en même temps que la Biennale d'Art Contemporain pour faire venir un public averti de l'art. Et on a envie d'attirer le public lyonnais. Mais on n'a pas envie de devenir un lieu d'attraction. Ça reste un lieu de culture, ça reste un lieu d'échange. Et l'échange, il faut qu'on puisse se taper dans le dos, se causer. Même s'il y a beaucoup de monde, on a toute une série de visites burlesques sur les week-ends, là où il y a plein de monde, pour que ces visites, elles prennent un caractère humain. Nous, c'est ce qui, voilà. Donc les gens, ils arrivent là et puis ils déconnent avec la visite. Et du coup, ça devient... Puis les artistes sont sur place et tout. Donc il y a un moment où on saturerait. On ne pourrait pas, si on avait un trop grand succès, on saturerait. Mais non, le plus important pour nous, c'est de garder la mémoire. Parce que là, c'est un art qui a toujours existé, mais qui a eu du mal à sortir de l'ombre. Et qui actuellement, maintenant qu'il est sorti de l'ombre, est attaqué par les spéculateurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui achètent... Des paquets d'œuvres en disant ça vaudra quelque chose dans plus tard. Donc on essaye de cacher un petit peu. De préserver, parce que nos artistes sont des gens fragiles, des gens qui n'ont pas. Ils n'ont pas un cabinet financier derrière qui leur explique. C'est des gens. S'ils vendent toutes leurs œuvres, ils sont démunis. On a eu un gros trou cette année. C'est Guy Brunet qui devait venir. Guy Brunet qu'on connaît bien, qui nous aime bien. Il devait nous prêter des silhouettes pour installer, il devait nous amener des films. Mais Guy Brunet, il a le musée d'art brut de Lausanne qui lui a pris 250 œuvres. Et Guy Brunet, ses œuvres, ce n'est pas des œuvres, c'est des acteurs. Il fait des films avec, c'est des silhouettes, c'est ses acteurs. Et si tu lui supprimes ça, il est vide, il a plus rien. Et tous les artistes qu'on a, ils sont comme ça. Si tu leur supprimes trop d'œuvres, qui sont une part d'eux-mêmes, ils sont vides. Donc les spéculateurs qui viennent et qui piquent, ça nous détruit des gens. Et donc on essaye de les protéger.
D'accord. Et si vous deviez parler de vos artistes un peu, vos artistes qui sont exposés...
C'est pas mes artistes.
Oui,
hein.
Oui. Vous dites nos artistes alors.
Oui, c'est vrai que les artistes que présente la BHN, voilà. Mais c'est pas les miens. Si je pouvais en parler... c'est des humains en part entière, des gens qui ont quelque chose à raconter et qui racontent alors à eux-mêmes. Ils ont vraiment quelque chose à raconter. Ils ne sont pas inquiets de l'esthétique. Alors il y a des choses très belles, mais c'est pas leur problème. C'est pas leur problème d'esthétique. Ils font un peu comme les gens faisaient des ex-voto. On se pointait dans une église, le gens, il voulait remercier Dieu d'avoir sauvé son gamin de la noyade. Tout. Donc il faisait un petit dessin, il le faisait le plus sincèrement possible parce qu'il parlait à Dieu. Il parlait à une entité qui croyait vraiment au-dessus de lui. Et donc il fallait pas déconner. Et donc il le faisait sincèrement. Mais par contre, il cherchait pas à le faire plus. À le faire pour les autres. Si les autres le trouvaient laid, ce n'était pas son problème. Il parlait à Dieu. Et donc, nos artistes sont un peu ça. Ils parlent à quelqu'un d'autre. Ils ne parlent pas au public. Et ce qui fait que le public, quand il regarde, eh ben, y a des moments, il se dit, mais putain, ce mec-là, il m'a parlé directement à moi. C'est pour moi. Alors, il y a des choses qu'on rejette complètement parce que c'est trop proche ou trop... Voilà. Et il y a des choses qu'on... On se dit, mais ça, cet artiste-là, il était cherché dans ma tête. Enfin, c'est viscéral. On sent bien que c'est... Alors, il y a aussi des gens qui réfléchissent, hein, qui intellectualisent un peu ce qu'ils ont envie de dire. Mais les trois quarts des travaux présentés, elles viennent vraiment d'une envie, une envie non intellectuelle. Alors, on dit que dans le long des intestins, il y a l'équivalent du cerveau primaire. Le cerveau d'un chien, eh ben, je pense que ça vient de là. Ça vient de ce cerveau primaire. Voilà. Et les gens ne cherchent pas à aller plus loin. Ils sortent ce qu'ils ont. Et du coup, ça touche les gens au plus profond d'eux-mêmes.
Bernard, alors j'ai suivi en fin de compte les 6 éditions de la Biennale hors les normes, puisque Lorraine et Guy Dalvet, je les connais à peu près depuis grosso modo l'an 2000. Puisque Lorraine a une galerie qui est juste à côté de mon appartement. Voilà, donc j'avais l'habitude d'aller au vernissage de Lorraine. Ma compagne, je l'ai connue chez Lorraine, et elle a fait la première Biennale hors les normes. Donc nous sommes ensemble depuis 10 ans.
Et donc vous êtes le photographe officiel de la BH?
Non, mais ça c'est rien, ça. Il faut bien quelqu'un qui leur fasse des photos et qui sache un peu les travailler, les recadrer et tout. Non, mais ça c'est it was a joke.
Qu'est-ce qu'on photographie à la BHN?
Essaye de rendre un petit peu quand même les ambiances qu'il y a. Déjà un peu quand même faire des photos qui tiennent un peu la route quand même pour pouvoir présenter un dossier pour la future BHN, puisque la BHN, en fin de compte, elle vit principalement à cause des artistes et des bénévoles et des maigres subventions de la métropole de Lyon et de la région. Qui sont pas très importantes. Tous les 2 ans, il faut remonter un dossier, aller le présenter aux élus, défendre le bout de gras. Alors, c'est toujours mieux quand on présente un dossier, quand même, de montrer un petit peu ce qui a été fait. Donc, dans ce cas-là, il faut quand même quelques bonnes photos, en sélectionner peu, mais avoir quelques bons exemples un petit peu de l'audience que fait cette BHN.
Donc voilà. Vous participez à la mise en avant de l'événement.
Non, puis c'est tout. Oui, puis en fin de compte, moi j'ai dit une petite feuille de route sur les vernissages dans le domaine artistique, principalement sur Lyon, puis un peu au-delà de la région. Mais montrer des photos, c'est toujours des fois mieux que des grands discours.
Et effectivement, parfois les images sont plus fortes que les mots. Alors rendez-vous à la prochaine Biennale hors normes, ou qui sait, peut-être le temps de la visite d'une galerie.